That was the freedom bell to remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
Latérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
Apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
N'avez-vous jamais entendu parler de Francis Baker ou de Christine Rossi? Vous pensez à des héros de bande dessinée? Ou peut-être même à des scientifiques ayant travaillé sur des terrains de recherche improbables? Et non, vous êtes bien loin du compte. Ces deux-là, mais pas que, ont quelque chose en commun. Allez, je vous mets sur la voie. Dans les années 80, ils pratiquaient une discipline sportive commune, sorte de croisement entre le ski et la danse, le hip-hop et le croisé gracile de bâton. J'ai nommé le ballet à ski.
Et on remarque qu'il y a des gens quand même de bander tout au long de la piste, du sommet jusqu'au bas de la pente. Et il faut dire quand même qu'il y avait passablement de vent, mais rien pour importuner les compétiteurs dans ce genre de sport, mais aussi un soleil absolument éblouissant en début de compétition.
On avait une magnifique température pour ce genre de compétition.
Un mercure
je pense
qui
que les athlètes adorent ça aussi.
Quelques 17 degrés au niveau du mercure aujourd'hui. Et ça, c'était pas une défaillance, c'était un mouvement qui semblait voulu.
Oui, Hermann se prépare très lentement à son début de routine, et ensuite il lance ses gros sauts, comme là un 2,5. Pour un peu se relaxer au départ avec sa musique. Et ensuite, il lance ses gros mouvements.
Ah, alors je vois tout à coup les mines de mes invités du jour s'éclairer. Le ballet à ski, mais c'est bien sûr. Alors pour la petite histoire, et parce que sur Campus Grenoble 90.8, on est aussi là pour votre culture, Fabrice Baker, c'est le dernier champion olympique de cette discipline, remis au goût du jour par le journal 20 minutes dans un article du 9 février 2018 que je me permets de citer pour mieux vous faire comprendre. Dans l'absolu, Fabrice Baker aurait pu être danseur, patineur ou gymnaste. Mais c'est en ski artistique que ce planeur d'adoption s'est fait un nom en février 1992. Cette année-là, il est devenu champion olympique d'une discipline en démonstration aux Jeux, tombé depuis dans l'oubli. 22 ans plus tard, l'ancien spécialiste du ballet, selon la dénomination exacte de ce sport, revient avec plaisir sur son épopée aux Jeux. Je me souviens du jour où Sam Aranche avait officialisé l'annonce des Jeux à Albertville. Je m'étais dit « j'y serais ». C'était à la maison. L'anticonformisme assumé Fabrice Baker a finalement fait parler sa fibre artistique pour décrocher l'or olympique. On était le mouton noir du ski, des marginaux, un ovni dans un univers sportif classique. À la fédé de ski, ça ne laissait pas indifférent. Les gens qui s'aventuraient là-dedans voulaient sortir du lot, confie ce Candeloro sur spatule, spécialiste du salto avec planté de bâton. À sa manière, il incarne la contre-culture du ski alpin des années 80, au même titre que les freestylers du snowboard. Le ballet était d'ailleurs considéré comme une discipline acrobatique puisqu'il était attaché à un circuit Coupe du Monde regroupant le ski de bosse et le saut. Fabrice Baker y a d'ailleurs gagné deux gros globes de cristal avant de délaisser définitivement le ballet au milieu des années 90, le CIO n'ayant rien fait pour maintenir la discipline au jeu. Fin de la citation de cet article, écrit par Romain Scotto pour 20 minutes en février 2018, je le rappelle. Ce soir dans l'apérophonie, sur Campus Grenoble 90.8, je vais vous emmener à la rencontre de deux sports d'hiver assez improbables et tellement décalés conformément à notre ligne éditoriale. Je dois avouer qu'à la réception des mails de promo, nous avons d'abord cru à une blague, mais notre curiosité était tout de même piquée au vif. Baptiste Chavot, Quentin Boulet-Dorgan et Gabriel Véton, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous ce soir.
Il n'y a pas de soucis, avec plaisir.
Alors, vous avez récemment, Baptiste, créé un club sur Grenoble qui se nomme Association des Stocks Grenoble Olympique ou Pétanque sur Glace et vous vous préparez à partir au championnat d'Europe qui aura lieu en Allemagne en février, donc demain.
C'est ça, on part demain, donc assez tôt. Ouais. Et ça va être un peu l'aventure. Donc j'ai une nouvelle équipe cette année.
Superbe.
Et on espère faire pas mal de résultats voilà, contre ces fameuses équipes.
Très bien, et ce soir, on va apprendre à découvrir votre sport. Pierre Géraldi, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez créé vous portez les couleurs du Yukigassen.
C'est ça, oui, je l'ai importé du Japon.
sans y être allé, mais en voyageant par YouTube, vous m'avez dit tout à l'heure.
Exactement, ouais. Internet, tu nous fais voyager, c'est terrible.
Alors, le Yukigassen, c'est le mot qui désigne guerre des neiges en japonais, effectivement. Et merci beaucoup et bonsoir d'être... Bonsoir et merci beaucoup du coup d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Et enfin pour cette émission, je suis accompagnée pour la première fois sur les ondes de Campus Grenoble 90.8 d'Hugo Noirteau qui nous parlera notamment de catch.
C'est bien ça, bonsoir à tous.
Salut Hugo. Et enfin sachez que la mise en voix et en son grâce aux petites ondes hertziennes est attribuée au réal de cette émission et c'est Louis, notre super stagiaire à la technique.
Coucou.
Mesdames, Messieurs, la suite de votre programme culturel en provenance de Radio Campus Grenoble et à destination de votre poste de radio arrivera par le 90.8.
Alors Baptiste, Quentin et Gabriel, expliquez-moi un peu cette histoire de pétanque sur glace.
Ouais, alors ça a débuté en 2016 sur Avignon et donc ils... Une équipe senior est partie donc, en Italie faire la première compétition internationale. Et ensuite, ça s'est développé en U19 et en U23. Et donc, mon père m'a dit de créer une équipe sur Grenoble, prendre 4 potes et partir en Suisse en 2017. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le championnat d'Europe. Et ça s'est bien passé. Bon, on n'a pas eu beaucoup de résultats, mais c'était la participation qui comptait pour la première année. Et donc ensuite, on est parti donc en 2018 en Autriche pour les championnats du monde. Donc là encore, ça s'est plutôt bien passé. On a eu un peu plus de résultats que l'année d'avant, mais bon, on reste dans le commencement. Et donc cette année, on part à Pétting en Allemagne pour les championnats d'Europe, donc avec de nouvelles recrues et avec un peu plus d'entraînement.
D'accord. Alors vous avez dit U18 et U23, ça signifie quoi ?
Donc en fait, c'est au niveau de l'âge. Donc U19, c'est avant 19 ans et U23, c'est avant 23 ans. Donc,
d'accord.
Voilà.
Très bien. Et alors, ce sport, il a été créé pourquoi ? Parce que c'est quand même bizarre qu'un sport de glace comme ça soit créé à Avignon.
Oui, alors en fait, à la base, c'était pour avoir les parents qui viennent sur glace avec les enfants pour patiner, pour jouer, tout ça. Et donc, on avait pensé au curling, mais bon, ça coûtait un peu cher au niveau des pierres de curling, autour de 2000 euros. Et l'entraîneur qui était russe de patinage nous a parlé de ce sport. Donc, on a pris contact avec la Fédération internationale. Qui nous ont fourni du matériel et expliqué les règles. Donc c'est en allemand, donc c'est très compliqué pour comprendre, mais voilà.
Alors justement, ça rassemble beaucoup de monde ou c'est encore une discipline qui est assez naissante, c'est la pétanque sur glace, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler quand même.
Ouais, donc c'est assez naissant, donc il n'y a que 3 clubs en France, un à Grenoble et 2 à Avignon. Et il y a autour d'une quinzaine de licenciés sur Avignon et 5 sur Grenoble, donc c'est le début. Et donc il y a 3 équipes. Donc 4 équipes cette année, donc une équipe U19, donc de 4 jeunes, une équipe U23 de 4 jeunes aussi, une équipe senior et une équipe senior fille qui part en Lituanie ouais, cette année, faire les championnats du monde la semaine prochaine.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est incroyable, tu nous parles de pays qui sont tous voisins, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, ils ont tous des licenciés, nous il y a 3 clubs, mais que fait le gouvernement ?
Ah ben, c'est le début, c'est très dur et il faut savoir que pour avoir des heures de glace c'est assez compliqué, c'est le début, c'est normal, ça va venir.
Alors pourquoi c'est compliqué d'avoir des heures de glace ? C'est parce que les créneaux sont tous pris ou
Non, alors on a créé le club il n'y a pas si longtemps que ça à Grenoble et donc on a contacté la métropole, mais bon, on n'a pas trop d'actifs sur Grenoble, donc ils ne nous prennent pas trop au sérieux, je pense. J'avais eu un contact à la mairie, l'adjointe à la culture, mais bon, pas eu trop de nouvelles, j'ai envoyé un mail ou deux, pas eu trop de nouvelles. Bon, on espère que ça va se dérouler mieux après les championnats du monde, d'Europe. Voilà. On aura un dossier de presse un peu plus important, on aura des compétitions, un peu plus d'images. Mm-hmm. J'espère que ça va remonter à la mairie de Grenoble.
Peut-être qu'ils nous écoutent ce soir.
Qui sait ?
Alors, comment ça se fait qu'on passe d'un niveau national avec quelques clubs et qu'en fait, il n'y a pas de championnat national, si j'ai bien compris, et que vous tapiez direct au niveau européen, c'est quand même assez incroyable.
Mais alors justement, comme on est les seuls, on est directement qualifiés aux championnats internationaux et européens. Et du coup, bah voilà, on affronte direct les meilleures équipes, c'est ça qui est assez compliqué d'ailleurs. Et l'écart de niveau est incroyable entre les Allemands et par exemple qui est la meilleure équipe pour en U23 et nous-mêmes. Donc c'est assez compliqué de rivaliser, mais bon, on s'améliore. Ça fait bientôt 3 ans que je pratique le sport et il y a une nette amélioration. Et même mes camarades là ont un bon bras pour lancer le hashtag.
Avant de partir du coup et de comprendre les règles du jeu et un peu l'équipement, on va parler avec vous Pierre du Yukigassen,
oui.
La bataille de neige japonaise. Alors en quoi ça consiste ?
Alors le concept est assez simple, hein. C'est deux équipes qui s'affrontent, donc 7 contre 7, il y a 3 minutes de jeu. L'objectif c'est d'aller chercher le drapeau en face sans se faire toucher par les boules de neige des adversaires, synonyme de disqualification directe, hein, à l'instar du paintball ou de la balle aux prisonniers.
D'accord. Alors, comment est née cette idée de... Parce que donc vous, vous n'êtes pas une équipe, vous êtes une entreprise en fait privée qui organisait ça. Vous l'organisez dans 50 stations il y a quelques années. Maintenant, c'est plus pour du team building, des choses comme ça. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée de se dire, on va importer un sport du Japon en France ?
Original. À l'origine, j'ai travaillé dans les stations de ski et je trouvais ça fou que, en fait, dans les programmes d'animation qui sont de plus en plus étoffés, en plus. On propose jamais une bataille de boules de neige. Alors j'ai un peu réfléchi à comment on pouvait imaginer une bataille de boules de neige qui puisse être intéressante, parce que bien souvent, on a déjà tous joué à la bataille de boules de neige. Mmh. Une fois qu'on en a pris 3 dans la tête et qu'on a les gants mouillés et les mains froides, on arrête et puis hop, c'est terminé. Mmh. Pour créer une animation, il faut que ça dure au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire toute l'après-midi. Et du coup, j'ai cherché et trouvé ce concept, le Yukigassen, guerre des neiges en japonais. La révolution, quoi. Ça existe depuis 30 ans, ils font des championnats du monde, on retrouve des milliers de vidéos sur Internet. Ouais, c'est fou.
J'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un petit peu compliqué ? Bataille de boules de neige, c'est davantage les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de stéréotype et après ramener des adultes dans ce sport-là ? Est-ce que vous souffrez pas un peu de cette image-là ?
Alors, j'en souffre pas parce que les enfants ne viennent jamais seuls, hein. Il y a toujours un parent ou deux autour. Et en fait, quand on leur fait comprendre aux parents qu'eux aussi peuvent jouer et que oui, il y a une stratégie et qu'en plus, ils peuvent retourner dans leur âme d'enfant, et ben, une fois qu'ils commencent à jouer, en général, les enfants ne jouent plus.
C'est très intéressant de voir qu'il y a une sorte de... que le fossé générationnel, en fait, il n'existe pas, puisque les parents et les enfants, d'après ce que vous dites, jouent ensemble.
Exactement. Ben, au départ, ils viennent un peu pour dire « Bon, allez, j'accompagne mon fils. » Puis au bout d'un moment, surtout en station de ski, quand, dans les grandes stations où il y a un peu les humeurs festives, là, « Oh, attends, vas-y, viens avec moi, viens avec moi. » Et puis en fait, les enfants, au bout d'un moment, ils ne jouent plus.
Avant de se plonger sur les règles de chacun des sports, je vous propose une petite pause musicale dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et on va s'écouter Fontaine d'ici, Too Real. À tout de suite.
hand for the passion loose from youth's ungrateful hand. As it stands, I'm about to make a lot of money, gold helps in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside. As I cried, I'm about to make a lot of money, gold helps on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter even settles down. The bruised and beat up open sky. 6 o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? 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 Lose from youth's ungrateful hands. As it stands, I'm about to make a lot of money, gold caps in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside. As I cry, I'm about to make a lot of money, goes around and around and around. Are you for ya? Is it so real for ya? Is it so real for ya? Is it so real for ya? Is it too 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 real for ya?
Chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'était Too Real de Fontaine D.C. Ce soir, c'est une émission hivernale qu'on vous propose et on vous fait découvrir la pétanque sur glace et le Yukigassen, la guerre des neiges. Mais on va laisser un peu le froid de côté, la neige et la glace, quelques minutes pour s'intéresser à une toute autre discipline avec toi, Hugo.
Oui, et rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'à présent. Enfin, d'ailleurs, je n'ai jamais entendu dire que le sport que je vais vous présenter a déjà eu lieu, ne serait-ce qu'une seule fois en condition hivernale.
Mais ne faisons pas durer le plaisir et le suspense. Tu vas nous parler de catch, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, c'est plutôt simple. Quand on pense au catch, en fait, on imagine des athlètes très musclés, en slip qui moule, hein, justement, et au corps huilé, ou alors des super-héros masqués, ou encore même des jolies jeunes femmes en tenue légère, pour vous, messieurs, notamment. Mais avant de poursuivre, permettez-moi quand même d'apporter une précision très importante. Tous ces clichés, tous ces stéréotypes et ces images préconçues, malheureusement, tout ça, c'est vrai. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça, c'est à chacun de juger. Mais malgré son apparence parfois superficielle et la caricature très grossière que je viens d'en faire, le catch n'en reste pas moins le divertissement sportif le plus populaire du monde. Et oui, du monde, puisqu'il s'agit littéralement d'amuser le public en lui racontant une histoire à travers une performance sportive scénarisée. Dans le style, on pourrait également penser au Monster Truck, vous savez, c'est ces grosses voitures qui écrasent d'autres plus petites, ou encore les Harlem Globetrotters, les basketteurs américains. Et pour vous donner un chiffre, le show Collision en Corée, organisé en 1995 à Pyongyang en Corée du Nord, a rassemblé, accrochez-vous, hein, plus de 190 000 personnes dans le Mayday Stadium. Et ce show reste encore aujourd'hui le plus important événement de l'histoire du catch.
Ça a l'air d'être du sérieux, le catch du coup, mais c'est pas un sport à proprement parler comme la boxe ou le judo. Alors, comment expliquer un tel engouement ?
Eh ben, c'est justement le propre du divertissement sportif, en fait. Comme je le disais, au catch, on raconte une histoire. L'intrigue la plus courante et la plus efficace reste celle du gentil, un combattant loyal soutenu par le public contre le méchant, un tricheur détesté par la foule. Alors, ce principe d'interaction à l'image des one-man shows où les spectateurs peuvent être mis à contribution est inédit pour un événement sportif, et c'est justement ce qui fait la force du catch. On voit pas vraiment ça ailleurs, en fait. Le spectateur est invité à invectiver le catcheur qu'il n'aime pas, ou au contraire, à donner de la voix pour supporter son favori dans l'espoir de provoquer une réaction qui soit va faire rire, soit renforcera le sentiment du spectateur. En clair, si vous dites au méchant qu'il triche et qu'il est nul, eh ben, il ne manquera pas de vous remettre à votre place avec des mots soigneusement choisis qui, à votre tour, vous donneront envie de l'insulter.
Le catch, finalement, c'est un peu comme du théâtre.
Oui, tout à fait. Bon, c'est pas vraiment une pièce classique à la Molière, hein, on est d'accord. Hein, il faut davantage concevoir le catch comme une sorte de série télé. On y suit des personnages, le personnage favori notamment. On en a tous un dans une série. Sa rivalité avec les autres lutteurs. On assiste show après show à leur évolution, en parallèle de celle de l'intrigue, dont tout avance dans un même bloc, comme dans une série télé. Et les grandes lignes sont en effet prévues à l'avance. Mais à l'instar des meilleures séries télé, le catch, c'est aussi des rebondissements inattendus, des surprises de dernière minute et surtout de gros retournements de situation que le spectateur n'avait pas vu venir.
Ah mais du coup, c'est faux en fait. Les catcheurs, ils se font pas vraiment mal et tout est prévu à l'avance.
Ah ça c'est la question qui fâche. Ne dites pas ça aux fans, je pense que vous allez être bien reçus. En tout cas, sauf que plus qu'une vraie c'est pas vraiment ça en fait. Les séquences sont scénarisées, mais certains éléments sont pensés à l'avance en fait. Reste ensuite au lutteur à rendre le spectacle crédible sans que les gens s'en rendent compte, bien évidemment. Mais en cas d'erreur, je suis désolé, mais la blessure, ça peut être très sévère, hein, très très grave. Une déchirure, des fractures, une commotion cérébrale, un peu comme en foot américain où il y a de gros dégâts, des nuques endommagées même, peut-être, on a déjà vu ça très souvent. Et parfois même, la vie des catcheurs est mise en grand danger. À chaque combat, en fait, ils risquent leur vie tout simplement. Alors on ne le répétera jamais assez, ce sont des professionnels. N'essayez pas, chers auditeurs, de reproduire ce que vous voyez à la télé ou sur Internet, ça peut être très dangereux.
Le catch, c'est un sport qui est très populaire aux États-Unis, mais qu'en est-il de la France finalement ?
Alors ouais, les USA, hein, très clairement, c'est l'Eldorado des catcheurs, la terre promise pour ceux qui souhaitent devenir professionnels, passer à la télé et devenir célèbres. Alors en France, c'est davantage un vivier de talents. Plusieurs catcheurs sortent des écoles chaque année et partent lutter un peu partout dans le monde. Il faut quand même savoir que l'Hexagone a été la patrie du catch dans la première moitié du XXe siècle, jusque dans les années 70 à peu près, puis a perdu de la vitesse face aux Américains et aux Anglais. Aujourd'hui, il y a quand même un nouveau souffle qui arrive sur le catch français. La nouvelle génération a très à cœur de développer cette discipline en France et commencer à se faire connaître dans le monde. Le plus connu des catcheurs français reste André Le Géant. On l'a sans doute tous vu au moins une fois à la télé. Et plus récemment, c'est Tristan Archer qui s'est illustré lors du Cruiserweight Classic, un tournoi pour poids légers à la WWE, la plus grande fédération de catch au monde. Alors justement, en France, le catch trouve progressivement sa place et ne demande qu'à rencontrer son public.
Quelles sont les fédérations françaises les plus connues ?
Alors, il y en a peu, hein, on ne va pas se le cacher, il y en a peu. J'ai toutefois relevé trois qui sortent du lot. La plus connue, ça reste l'APC, l'Association des professionnels de catch, qui est basée à Nanterre, près de Paris. En Bretagne, on peut également trouver la fédération West Catch. Et dans l'Est, près de Grenoble, c'est la fédération AYA qui fait parler d'elle. Elle tenait d'ailleurs son show Fire Up samedi dernier à Rumilly en Haute-Savoie, l'occasion de retrouver Tristan Archer dont je viens de vous parler.
Raconte-nous, qu'avait-il de spécial ce show finalement ?
Alors, l'action se déroulait au centre Oscar, dans un petit hémicycle d'une vingtaine de places. Et justement, quand 100 personnes se prêtent au jeu et commencent à chanter, à crier et à supporter leur catcheur, on croirait presque que la salle compte 10 fois plus de personnes. L'acoustique était absolument fabuleuse. Mais c'est en tout cas l'impression qu'a eu Chris Jokic, un lutteur croate invité pour combattre dans le main event, le combat principal de la soirée, face à Tristan Archer, encore une fois. Alors souvenez-vous, je vous parlais plutôt des codes empruntés à la télévision et aux séries télé. Eh ben, le show Fire Up était la suite directe du show Reborn qui s'est tenu en novembre dernier. La ceinture y avait été volée à l'époque par le vicieux Red Light, un catcheur masqué un peu mauvais, dédaigneux et qui crache un peu sur tout le monde et le public. Et samedi, il a fini par la restituer. Sauf que le match de championnat prévu pour déterminer un champion légitime s'est terminé par une double disqualification, donc finalement pas de vainqueur, pas de champion. Et souvenez-vous encore une fois, je vous parlais de surprise et de retournement de situation imprévue. Et ben là, le promoteur du show, Stéphane Noguès, est arrivé en plein milieu du combat, et plutôt en plein milieu entre deux combats, et a annoncé que la ceinture allait être défendue lors du combat principal, alors que c'était pas du tout prévu. Alors imaginez quand même que la salle à ce moment-là était vraiment en ébullition, parce que le match Archer-Jokic qui n'était pas prévu pour la ceinture, voilà, tout le monde pensait que ça allait être fou, et on n'a pas été déçus. Vraiment, la salle était en ébullition, un peu comme le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne au foot, qui est un peu un volcan dans le championnat français. Mais là, du coup, c'était à Rumilly, samedi soir, et au final, Tristan Archer s'est emparé du titre à l'issue d'un match d'une vingtaine de minutes de très très haut niveau. Et Stéphane Noguès m'a même confié à la fin du show que c'était l'une des rares fois où le public avait été aussi bruyant. Et en effet, les spectateurs sont passés par toutes les émotions et ne sont jamais restés muets par lassitude. Alors, pour conclure, avec Tristan Archer comme nouveau champion, la fédération AYA écrit un nouveau chapitre de son histoire que les spectateurs sont invités à découvrir le 20 avril prochain, date de leur prochain show.
Merci beaucoup Hugo. Il y a quelque chose que je retiens de ta chronique, c'est qu'il existe des écoles de catch.
Oui, tout à fait. 3 en France et aux États-Unis, là, il y en a pléthore. Hein. Je ne les compte même plus tellement il y en a.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose, une réaction sur le catch? Est-ce que vous connaissiez le catch avant cette chronique de ce soir?
Oui, bien sûr qu'on connaît le catch. Ça date d'il y a un certain temps. Moi, je me rappelle, on collectionnait les cartes de catch à l'école primaire. Même, c'était interdit parce que ça prenait la violence ou je sais pas quoi. Et
ah ouais.
On était tous là. Tu crois qu'ils font exprès? Tu crois qu'ils font semblant? On sait pas et tout. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on connaît le catch. Mais c'est vrai que ça revient de plus en plus à la mode. Chaque année, il y a une nouvelle vague et tout.
Moi, perso, je regardais le catch avec mes parents à la télé samedi soir. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Samedi soir.
Ah, moi, je regardais le matin avec mon frère, le mercredi matin, mais à chaque fois, ça finissait, on essayait les prises sur nous, ça ne marchait pas.
Ouais, ça inspire un peu pas mal de monde, ouais. À rigoler entre potes.
Ouais, toujours.
Mais justement, le catch, si vous voulez recommencer à le voir, ça passe en ce moment, notamment sur la chaîne de nos confrères de l'équipe, Le Weekend. Et voilà, vous pouvez retrouver les plus grands shows de la WWE, Raw, SmackDown et bien d'autres à l'avenir.
Eh bien, merci Hugo. Nous allons revenir à la pétanque sur glace, après ce petit retour au catch. Alors, la pétanque sur glace, c'est donc un terrain de 6 mètres par 3. Donc, il y a un bouchon. C'est ça, hein?
Ouais, c'est ça.
On dit ça, on dit un bouchon.
C'est un bouchon, mais qui ressemble un peu à un palais de hockey, en gros.
Ouais, donc un truc plat et noir de rond.
Un palais de hockey, quoi.
C'est ça, un palais de hockey.
Peut-être que nos auditeurs n'ont jamais vu de palais de hockey, on ne sait pas. Ouais, et donc, le tireur, on dit ça?
Ouais,
et le tireur. Est à 28 mètres de la cible.
En gros, il y a les tireurs et les pointeurs. Et on est...
La pétanque.
C'est ça, exactement. Et on est séparés de la cible de 26 mètres, de 21 mètres, pardon. 28 mètres,
28.
Pardon. Excusez-moi. Et notre but, du coup, c'est de placer les hashtags les plus proches du bouchon.
Alors, le hashtag, c'est quoi?
Le hashtag, c'est trois parties. C'est divisé en trois parties. En gros, il y a le manche, il y a la tête qui est en fer, et il y a le disque qui est en dessous, qui est de différents types. Il y a le bleu, le jaune, le gris, voilà. Ça, en gros, c'est la difficulté de frottement sur la glace.
Alors, avec la pétanque, on a plusieurs lancers possibles. On en a deux, en fait. Je crois savoir que vous me disiez tout à l'heure que la pétanque sur glace, en fait, c'est juste toujours le même geste avec la même intensité, mais c'est le dernier morceau qu'on change, hein, le disque. Donc, on met un des trois disques et ça va glisser plus ou moins loin.
C'est ça, en fait, c'est l'inclinaison du disque qui va réduire les frottements ou les amplifier. Et selon le disque qu'on met, on va aller chercher, par exemple, un disque rapide pour venir au fond ou pour tirer. donc pour avoir de la vitesse et de la puissance, ou alors selon ce qu'on fait, donc si on pointe, on va chercher un disque plutôt lent pour venir placer un H-stock près du bouchon et qui ne bouge le moins possible. Donc c'est ça la difficulté, et il faut garder toujours le même geste pour être régulier.
D'accord. Pour faire un parallèle avec le curling, c'est ce qui remplace le balayeur, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, ouais.
Et alors, du coup, demain, vous partez en Allemagne. Ouais.
Pour les championnats d'Europe, ouais. Exactement.
Et alors?
Bah alors, on va essayer de donner notre maximum. Hein. Vraiment, bah, c'est... le but, c'est d'apprendre au maximum, parce que nous, avec Gabi, bah, c'est notre première année. Ouais. Et...
Et ben, enfin, ouais, notre but là, c'est pas forcément de gagner, c'est de.
Comment ça, vous allez nous ramener la médaille là?
Ah, ben, on va faire ce qu'on peut, bien sûr, mais on sait très bien qu'il y a des, nationalités qui ils font ça depuis très, très longtemps, ils ont beaucoup de formations, trucs comme ça, donc on sait qu'on n'a pas forcément le niveau pour toutes les équipes, mais on va faire notre maximum, et le but, c'est de d'apprendre, de participer et de gagner certainement la prochaine fois.
Vous connaissez déjà votre tableau, vos adversaires, un peu à l'instar d'autres compétitions qui annoncent la liste des compétiteurs et des adversaires?
Oui, en gros, ça va être une sorte de ligue. On va rencontrer un peu toutes les équipes. Il y a l'Allemagne qui est le favori dans notre catégorie. Après, il y a l'Italie, la République tchèque, la Finlande, la Pologne, la Suisse, la Lituanie et l'Autriche et la Slovénie. Et en gros... Bah, les grosses nations phares, c'est l'Allemagne, l'Autriche, on va dire, et l'Italie. Mais notre but, ça a été d'essayer de gagner le plus de matchs possible, surtout, et de se classer au maximum, le plus haut possible, quoi.
Donc avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on pourrait peut-être viser une cinquième place. Ce serait déjà pas mal pour notre niveau. Donc il faut savoir que, par exemple, un joueur donc, professionnel autrichien s'entraîne 35 heures par semaine, ce qui est assez énorme, et donc le sport, enfin, on n'a pas besoin de vraiment d'une grosse condition physique pour jouer au sport, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut beaucoup s'entraîner, mais comparé à nos heures d'entraînement, c'est une grosse différence quand même. Nous, on n'a que quelques heures d'entraînement sur glace et on va dire 2-3 heures sur goudron par semaine.
C'est des professionnels dans les autres pays, est-ce qu'ils vivent de ce sport-là?
Alors oui, ils ont des contrats de sponsors et ils sont payés, bon, on ne sait pas trop. Beaucoup plus, parce que bon, on parle avec des étrangers, donc c'est toujours difficile en allemand, même si à l'anglais c'est jamais facile. Mais oui, il y en a qui réussissent à en vivre, du moins il me semble.
Vous n'avez pas essayé de vous faire sponsoriser par cette boisson anisée du Sud?
Oui, mais c'est la question que j'allais poser ensuite. Il existe une boisson à la pétanque?
On cherche activement des sponsors. Donc si. oui, bon, on a contacté pas mal de sponsors. Bon, on vise les petites entreprises locales pour le début. Et les par contact, après, hein, c'est du bouche à oreille. S'il y a des entreprises de la région, donc on a pas mal d'amis aussi qui sponsorisent, donc c'est super sympa.
D'ailleurs, on tient à remercier aussi le crowdfunding. On a fait un crowdfunding justement pour nos chaussures avec Gabriel, ouais. Parce que c'est notre première année. Et voilà, il faut avoir les chaussures de glace. Et du coup, on a pas mal été aidés par les gens, et merci encore.
Ouais. On avait fait un pot commun, et on a rassemblé, je sais plus, 300 euros à peu près, ouais, pour acheter des chaussures sur glace spécialisées qui accrochent bien et qui nous permettent de pas glisser, pas se péter la gueule et pas se taper la honte devant les Allemands au championnat.
Surtout que vous êtes 5 finalement dans l'équipe, donc si en fait vous avez juste c'est une équipe de 4, mais vous êtes 5.
On est 5 licenciés, mais on n'est que 4 à partir en Allemagne.
Donc du coup, vous n'avez vraiment pas le droit de vous blesser, parce que sinon, c'est foutu.
Non.
Quoi.
Ouais, c'est sûr,
voilà,
ouais.
C'est surtout ça en plus. Ok. Hugo?
Vous parliez tout à l'heure de la difficulté à en vivre, ou alors à se faire sponsoriser. En plus du titre européen, est-ce que vous avez une récompense financière, j'ai envie de dire, une sorte de prize money pour la victoire?
De l'emmental suisse. Voilà, des cadeaux, de la saucisse aussi, voilà. Non, c'est... Surtout qu'on finit quasiment dernier dans chaque compète, donc... faut pas le dire. Mais non, on n'a pas de récompense financière quand on gagne. Non, c'est vraiment convivial comme sport.
Alors, avant de revenir sur la pétanque sur glace et votre départ pour l'Allemagne, j'aimerais quand même qu'on voit un peu le Yuki Gassen. Alors, comment ça se joue? Parce qu'on a dit que c'était une bataille de boules de neige, mais c'est une bataille de boules de neige sur un terrain un peu particulier.
Alors oui, sur le terrain, les règles officielles imposées par le Japon et
la fédération.
Aujourd'hui, le Canada, qui est où il y a vraiment des grosses compétitions et qui a un client sérieux au titre chaque année. C'est 40 mètres par 10 avec des murs de neige. Donc il y a 7 murs de neige. Les terrains sont mis de manière parallèle. Donc il y a ce qu'on appelle de chaque côté les châteaux, qui, si on voulait rentrer un peu dans le détail, ont des dimensions officielles de 50 d'épais sur 1,20 m de haut, sur 1,25 m de large. Il y a le même au milieu du terrain. Et après, on en a deux autres plus petits dans notre moitié de terrain, de chaque côté, pour pouvoir avancer sans se faire toucher et être à découvert.
D'accord. Et on a le droit de viser partout ?
On a le droit de viser partout.
D'accord. Et comment est-ce qu'on sait quand quelqu'un est touché ? Alors, parce que c'est pas comme on...
Ah ben là, ça, c'est le rôle de l'arbitre.
D'accord.
Donc, si on est mauvais joueur, on essaye de voir quand l'arbitre ne l'a pas vu. Sinon, on est de bonne foi. Et je crois encore à la bonne foi des gens. Donc, je pense que les gens, dès qu'ils sont touchés, même quand on joue pour le plaisir, ils sortent.
D'accord. Et alors, du coup, c'est 7 contre 7.
C'est ça.
3 minutes de bataille.
Voilà.
90 boules par équipe.
Exactement.
Et alors, il y a quelque chose d'assez fabuleux, puisqu'il y a une règle pour les boules de neige sur leur dimension.
Oui, effectivement, il faut que... Parce qu'en fait, il faut que les boules soient assez tassées pour qu'elles ne se désagrègent pas quand on les lance.
Forcément.
Et donc, en fait, il existe des moules à boules de neige. Donc, elles font 7 cm de diamètre, ce qui est un peu la taille en plus idéale pour bien la lancer. Et elle fait un poids sympa. Ouais.
Et alors, c'est un sport officiel quand même dans quelques pays dans le monde ?
Une dizaine de pays, ouais. Pour faire un parallèle avec nos collègues qui sont à côté, c'est autant que le curling.
D'accord.
Le curling est reconnu comme sport dans 10 pays à travers le monde.
Seulement ?
Et ouais.
D'accord, je pensais que c'était beaucoup plus. Et donc, il y a un championnat du monde depuis pas mal de...
Depuis plus de 30 ans, ouais.
Depuis pas mal de temps déjà, d'accord. Et alors, la prochaine bataille de Yukigassen, c'est quand ?
Alors, on en organise une là, jeudi. Alors, on touche du bois, c'est assez rare d'organiser des batailles de boules de neige en plein été, vu les températures qu'on a en ce moment. Mais du coup, normalement, on en organise une jeudi prochain au col de l'Arzelier à partir de 14h.
D'accord. Et alors, vous me disiez tout à l'heure que c'était un peu particulier justement au col de l'Arlesier en ce moment. Et c'est pas anodin qu'il y ait du Yukigassen à ce moment-là.
Et non. Alors justement, le col de l'Arlesier a rencontré des petites difficultés cette saison. Et en fait, ils n'ont pas pu ouvrir la station au ski. Ils n'ont pas pu ouvrir leur remontée mécanique. Et du coup, on a trouvé un petit accord où... On organise quand même des petites animations là, pendant les vacances scolaires des Grenoblois sur le domaine. Et en plus, c'est en participation libre, c'est au chapeau. Quoi.
D'accord, ok. Et alors, tout le monde peut participer ?
Tout le monde peut participer. Les enfants à partir de 8 ans, en dessous de 8 ans, ça peut être un peu dangereux. Puis surtout, ils ne comprennent pas trop les règles. Même si les règles sont faciles, dès qu'on est touché, on sort.
Ah, dès qu'on est touché, on sort.
Ah, dès qu'on est touché, on est éliminé, donc on sort du terrain.
D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder, est-ce que l'arbitre regarde pas quand on s'est touché, quoi.
Ah, toi, parce que tu regardes la triche.
Bah ouais, je suis désolée, la bonne
Hop,
foi.
Viré.
D'accord. Et donc, il y a un seul arbitre pour les parties que vous organisez, mais...
Ouais, c'est moi en plus.
Ah, d'accord.
Alors, je suis corruptible, hein, comme tout le monde.
Mais... Comment, alors ?
On en parlera après.
Et en compétition officielle, par contre, c'est 3 arbitres.
Alors oui, il y en a même plus que ça. Hein. Au Japon, lors des championnats du monde, c'est carrément télévisé. Donc il y a les caméras et tout.
Et la VAR.
Eh ouais, ouais.
Il y a la VAR et tout, en fait.
Ah ouais, ouais, carrément. Ouais,
carrément.
Ah, mais il y a une cérémonie d'ouverture avec les drapeaux, etc. Il y a des règles bien plus complexes. Hein. Il ne peut pas y avoir plus de 4 joueurs dans la zone avant. On n'a pas le droit de se faire de passes. J'ai un carnet chez moi, ça fait 20 pages de règles.
D'accord.
Et ça se déroule combien de fois par enfin, je veux dire, à quelle fréquence ça se déroule, ces championnats du monde ? En football, par exemple, c'est tous les 4 ans pour la Coupe du Monde. Là, pour votre discipline, c'est tous les combien ?
Eh ben, c'est tous les ans.
Tous les ans ?
Bah ouais, pourquoi faire ça tous les 4 ans ?
Bien sûr. Et du coup, ça veut dire que...
Ils sont 150 à jouer, on va...
Un champion peut rester champion pendant 10 années d'affilée, quoi.
Eh ouais.
La beauté du sport. Mais alors, ça veut aussi dire que si une équipe est hégémonique, elle peut dominer le sport pendant très longtemps.
Ouais, et c'est arrivé forcément les premières années où les Japon, qui étaient les précurseurs, dominaient tout le monde, parce que chez eux, ils avaient déjà les terrains, ils avaient déjà de quoi jouer. Et maintenant, il y a un peu les Canadiens qui viennent semer la zizanie parce que bah, maintenant, il y a carrément des Yukigesen Park. Comme chez nous, on a des terrains de basket, etc. Bah, là, il y a des terrains de Yukigesen extérieurs. Ils s'entraînent l'été avec des modules et des balles en mousse. Voilà. Ça bouleverse un peu tout, là.
Très bien, merci beaucoup. Avant de se replonger dans le ice stock et la pétanque sur glace, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Emily Zoé, Six O'Clock, de l'album The Very Start, sur Campus Grenoble 90.8. Vous allez écouter des influences de PJ Harvey, un son mélancolique et hivernal proposé par Pierre. A tout de suite. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'était Emily Zoé, Six O'Clock. Et ce soir, on vous parle de Yukigesen, les boules de neige japonaises, les batailles de boules de neige japonaises, et de ice stock, ski et de la pétanque sur glace. Ouais, alors, justement, cette pétanque sur glace, elle est membre du CIO dans sa petite personne, c'est ça
et... C'est ça, elle est membre du CIO, donc c'est le Comité International Olympique. Donc là, il y a une période de probation de 2 ans, il me semble. Et donc ça devrait être au JO de Pékin en 2022. Si tout se passe bien.
Si tout se passe bien.
C'est ça. Donc en gros, il y a une préparation. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'initier des pays, construire des pistes et voilà, donc avoir le maximum de licenciés possible, des sponsors. Et si tout se passe bien, bah, ça devrait être validé par le comité olympique et être au JO à Pékin.
Si tout se passe bien, donc Campus Grenoble aura été la première radio à avoir en son sein l'équipe de France de pétanque sur glace.
Alors non, ça serait les seniors du coup qui partiraient. Et donc là, du coup, il y a une petite bataille interne pour être le meilleur joueur. C'est ça, donc il y a... Bon, après, il y a d'autres jeux. Donc il y a les jeux de par équipe, comme on avait dit. 4 joueurs contre 4 joueurs. Mais après, il y a des cibles individuelles, il y a des épreuves de distance. Donc il faut lancer le plus loin possible. C'est une épreuve un peu de brute, donc c'est des gold, les mecs. Hein. Moi, j'ai lancé à 61 mètres, c'est la moitié du premier.
C'est comme donc dans l'athlétisme, il y a quand même plusieurs trucs à faire.
C'est
quoi.
Ça, voilà. Donc c'est pour tous les goûts et les couleurs.
L'endurance ou le lanceur de marteau, quoi.
C'est ça, voilà. et donc voilà, donc il y en a un peu pour pas mal de gens, mais bon, c'est les meilleurs qui partiront si c'est au JO. Et donc voilà. Et en plus, les seniors, faut savoir qu'il y a un groupe A et un groupe B. Donc pour justement réduire l'écart de niveau. Donc l'année en 2018, donc l'année où ils sont partis en Autriche, les seniors hommes ont été champions du monde dans leur catégorie B et donc ils sont qualifiés pour, enfin ils montent en catégorie A l'année d'après. Donc cette année ils sont en catégorie, donc dans 2 ans ils seront en catégorie A pour les championnats du monde.
D'accord.
Voilà. Donc en fait ça alterne une année sur deux, championnat du monde, championnat d'Europe.
D'accord. Et alors les prochains seraient quand ?
Donc les prochains c'est en 2020. Je sais pas où c'est, j'ai pas d'informations.
D'accord.
Mais et donc ils seront dans la catégorie A avec toutes les meilleures équipes, donc Allemagne, Italie.
D'accord.
Voilà, donc c'est ça qui est bien. Et alors que nous, les U23, on se retrouve direct avec les meilleurs. Il y a pas de catégorie A et B. Donc ça qui est compliqué pour nous.
Très bien.
Mais ça nous fait pas peur en vrai. Hein.
Non, ça vous fait pas peur. Bon, ça va alors.
On va rouler sur les Allemands. Nous.
Et alors du coup, pourquoi il y a pas de fédé de Yuki Gassen ? C'est quoi cette histoire ?
Ouais, parce que moi j'ai manqué un peu de temps et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est que c'est souvent les enfants qui viennent jouer dans un premier temps et c'est vrai que j'ai jamais fait la démarche de vouloir créer une fédération, mais l'hiver prochain là, trouver 6 copains et puis on part au championnat du monde directement, on va faire comme la pétanque sur glace. Hein.
On est là nous hein, s'il y a besoin d'aide.
Ok, il nous manque plus que 3 joueurs.
On est assez fort en bataille de boules de neige en plus.
Donc, on s'entraîne tous les ans. Ouais.
L'appel est lancé si vous voulez rejoindre Pierre pour créer une fédé de Yuki Gassen. Vous écrivez à Émilie à contact@campusgrenoble.org et je ferai passer le message. Comment est-ce qu'on commence finalement la pétanque sur glace ?
Alors c'est très simple. En fait, il suffit d'aller en fac de bio et d'avoir Quentin dans sa classe et qui dit hey, tu sais pas, j'ai un pote, il fait de la pétanque sur glace et tout. Son père, il a créé le truc et si tu veux, tu peux t'inscrire, c'est 40 balles par an et ça se trouve, tu vas au JO. Ouais, super chaud. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
En plus, vous êtes donc 3 étudiants du DLST ? En
ouais,
fac
c'est
de
ça.
Bio
ça, ouais.
Okay.
Lui, il est en chimie et Gabi et moi, on est en bio.
D'accord. En quelle année ?
On est en L2.
D'accord. Est-ce que vous avez demandé le statut de sportif de haut niveau ?
Non, parce que je pense qu'on n'est pas encore assez reconnu.
Il faut
ça va venir,
à Monsieur Markovic qui écoute Radio Campus régulièrement. Hein ?
Écoutez, Monsieur Markovic.
Si vous nous entendez.
Quentin Baudergan, Gabriel Béton et Baptiste Chabot.
Très bien. L'information, là aussi, sera passée. Est-ce que, Hugo, tu as une dernière question ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu plus technique et peut-être que je vais casser l'ambiance. Mais bien sûr. Mais avec les JO, ça offre quand même une nouvelle exposition. Et du coup, éventuellement, des droits télé, notamment en France, etc., ça pourrait quand même aider peut-être un petit peu la discipline à se développer. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là ?
Tout à fait. Bon, c'est très compliqué donc de développer un sport en France et il faut savoir qu'il y a déjà eu des petites émissions télé donc locales sur Avignon. Donc France 3 Provence a fait un petit reportage sur la pétanque sur glace. Mais contacter des télés, c'est très compliqué. J'ai essayé de contacter des radios, j'ai été accepté sur celle-là, c'est très gentil à vous. Mais c'est très compliqué et on va faire le maximum pour contacter évidemment les sponsors, les télés, si c'est au JO donc en 2022. Et voilà, bah pourquoi pas, ça sera fait en tous les cas, il me semble.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que France Télévisions, comme est diffuseur, tous les JO, peu importe, été, hiver, pourrait éventuellement aussi passer votre discipline et donc vous pourriez bénéficier peut-être d'un petit chèque au passage.
Ah bah peut-être, mais en tous les cas, ça reviendrait à la fédération pour payer les voyages, tout ça, hein, parce qu'il faudra évidemment financer le déplacement, le logement, la nourriture, donc ça, c'est un certain frais. Pour le moment, ça vient de notre poche, donc on espère à terme pouvoir payer tout ça grâce aux sponsors ou aux droits télé.
Ouais, parce qu'en plus des voyages, il y a le matériel qui coûte cher.
Alors qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs comme matériel, parce qu'on n'en a pas parlé?
Bah, du coup, il y a les chaussures qui sont importantes.
Histoire de ne pas être un de moins, justement.
C'est ça, exactement, parce que sinon on va être embêté. Et il y a tous les hashtags qui sont primordiaux du coup pour bien s'entraîner.
Bien sûr.
Du coup, du matériel de qualité et sinon, les cales aussi qui sont mises sur la glace en fait pour pas qu'on glisse aussi.
D'accord.
Voilà. C'est à peu près tout.
Ok. Et d'accord. Et donc, le hashtag, c'est quand même assez lourd. Je ne sais pas si on peut dire assez lourd, c'est 4,3 kg
exactement.
Ouais. 3, mais vous vous entraînez aussi sur du bitume, mm-hmm. Donc là, ce n'est pas vraiment le même matériel.
C'est les disques en dessous qui sont différents.
D'accord.
Ils sont adaptés pour le bitume et du coup, ça glisse. C'est à peu près les mêmes sensations de glisse que sur glace, quoi. Mais c'est juste les appuis qui sont un peu différents, quoi, au niveau des jambes.
D'accord.
Voilà.
Ok. Hugo, est-ce que tu as une dernière question ?
Éventuellement, oui, peut-être sur la condition physique, mais par rapport aux différentes épreuves. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'une grosse forme physique pour pratiquer cette discipline, mais en fonction des différentes épreuves, est-ce que justement ça ne diffère pas d'une petite préparation spécifique pour, comme on le disait, avec le parallèle avec l'athlétisme, le lancer de marteau ou alors l'endurance, ce genre de choses, par rapport à vos spécialités, entre guillemets, dans cette discipline?
Alors c'est pas aussi diversifié qu'en dans l'athlétisme. En fait, il y a juste globalement la stratégie de base, comme dans la pétanque, il y a des pointeurs et des tireurs. Donc il y a des personnes qui sont surtout précises. Il y en a qui vont surtout avoir un peu plus éventuellement de force ou qui ont le geste éventuellement un peu plus affiné, on va dire. Pour pointer, il faut mettre un disque assez dur, c'est-à-dire qui est difficile à lancer sur la glace, qui est difficile à amener jusqu'au bout. Donc il y a éventuellement ceux qui ont plus de force, mais après ça se différencie surtout avec ceux qui sont précis. Parce que bon, globalement dans un match, il y a des pointeurs et des tireurs. On a un peu tout. Après, donc, les autres épreuves, il y a les jeux de cible. Donc les jeux de cible, c'est surtout de la précision. C'est surtout, on doit tirer dans un hashtag et puis le faire aller sur la cible au centre ou des choses comme ça. C'est surtout de la précision, jeu de cible. Et après, éventuellement, le lancer.
La distance, ouais, voilà. La distance, il y a une préparation spécifique.
Sinon après le jeu c'est 80% de mental je pense pour bien faire le même geste et de la stratégie, beaucoup de stratégie et essayer de rentrer dans la tête des adversaires pour les faire douter, c'est ça le but du jeu. Et les Allemands ils sont très très stoïques et visage fermé, ils nous font peur à nous et cette année on va essayer de leur faire peur.
C'est un peu finalement comme la fléchette et la pétanque quoi.
C'est ça.
C'est comme tous ces sports de précision où il faut répéter sans inlassablement le même geste quoi.
Ouais, c'est ça, il faut être dans sa bulle, bon, une bulle à 4 quand même, parce que c'est une équipe, faut pas oublier. Mais par exemple, vu qu'on n'a qu'un seul lancé, si on rate, on pénalise toute l'équipe, donc on peut être dans le doute, on peut douter et enchaîner les échecs. Et donc là, le but, c'est de se motiver ensemble et d'arriver à gagner des points collectivement.
Et ce qui est bien là-dedans, d'ailleurs, c'est qu'on est une bande de potes et un peu à l'image des Rasta Rocket, nous, ce qu'on a envie, c'est de s'amuser ensemble et justement de progresser ensemble et de vivre une aventure, quoi.
Eh bien, voilà, nous avons donc placé le mot Rasta Rocket.
Exactement, c'était le but.
C'était ça.
Et qui porte le gris-gris, alors?
Le gris-gris, c'est vrai que...
Bah, pour l'instant, on n'a pas encore...
On a un chapeau, un petit bonnet.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler du Yukigassen et de la pétanque sur glace. Alors, on espère que vos sports auront beaucoup plus de succès auprès du CIO que le ballet à ski qui a disparu malheureusement. Je voulais aussi remercier Hugo pour sa superbe chronique.
Mais avec grand plaisir.
Chronique. Merci beaucoup d'être venu sur Campus Grenoble 90.8. Et merci beaucoup à notre super stagiaire Louis pour la technique.
Mais je vous en prie.
Il est l'heure de se quitter déjà. Je vous propose d'écouter mon morceau fétiche à moi. C'est Henri Caraguel, Les Arbousiers, qui comptabilise 188 vues sur YouTube grâce à mon acharnement d'écoute régulier. Je ferai connaître cet artiste qui est absolument incroyable. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée sur Campus Grenoble 90.8 ou ailleurs. À très vite.